Il est midi et demi sur Europe 1, le journal de la mi-journée, présenté par François Claus. Bonjour François.
Bonjour Ombline, bonjour à toutes et tous. La petite commune d'Avenay-Val-d'Or, 1 000 000 d'habitants, est sous le choc ce matin après la terrible collision sur un passage à niveau hier qui a coûté la vie à une assistante maternelle de la commune et aux 3 enfants qu'elle transportait. Nous retrouverons dans un instant sur place l'envoyé spécial d'Europe 1 dans la Marne. Dans l'actualité de ce mardi 16 juillet, il flotte comme un parfum de grand oral. Le grand taux pour l'Allemande Ursula von der Leyen, qui brigue à Strasbourg un poste de présidente de la commission et qui a fait vibrer les députés ce matin. Le grand taux pour François de Rugy, qui défendra cet après-midi devant les sénateurs sa loi climat-énergie, qui pourrait être quelque peu pollué par des relents de homards ou d'appartements rénovés. Nous reviendrons également dans le journal sur la réalité du sida dans le monde. 770 000 morts en 2018, mais on a surmonté l'hécatombe du début des années 2000. Le choc pour les salariés des magasins Tati, la direction vient d'annoncer que 13 enseignes seront fermées. Tati ne subsistera que dans son historique bastion de Barbès. Comme tous les midis de l'été, une balade estivale dans le Morbihan aujourd'hui. Un livre, L'Enchanteur, et un détour avec Thomas Beuclair sur la route du Tour. Comment Thibaut Pinot peut-il rebondir? Et bien sûr, le temps du jour, c'est bel et bien l'été, Léna Mordard.
Oui, une belle journée estivale, malgré la présence, François, d'un voile nuageux sur les régions de l'Ouest en ce moment, puis sur l'Est l'après-midi, ça nous donne un ciel un peu blanc-bleu plutôt que tout bleu. Un voile qui tamise les ardeurs du soleil, donc, mais pas celle du mercure, avec 20 à 34 degrés cet après-midi, de Cherbourg à Nîmes.
On vous retrouve bien sûr à 12h58 pour la météo détaillée. Et nous sommes ensemble jusqu'à 13h avant de retrouver Raphaël Duchemin pour le meilleur de la France qui bouge.
Europe 1.
Mais comment ne pas ouvrir ce journal avec des sourires, avec ces joies enfantines, sourires et joies qui ont envahi les plages de Marseille hier. Car entouré de papa, de maman, de papy et de mamie, tous volontaires, bénévoles du Secours Populaire, voilà une dizaine de gamins âgés de 6 à 12 ans qui ont découvert ce qu'on appelle des vacances, les vrais.
Mon père, il nous a fait une surprise. À la dernière minute, il a dit « Fais tes valises !» Moi, je savais pas. Je me disais « Oh non, je vais encore rester à Gennevilliers, rien faire. » J'ai fait un gros câlin à mes parents et j'ai pleuré parce que j'étais trop contente. C'est trop bien, Marseille. Il fait beau, il fait chaud. Découvrir la ville, aller à la mer et la Crobranche.
Alors, il s'appelle Jean-Claude. Il vient de Nanterre. Il voulait la mer et la piscine.
Aller à la plage.
Ça va être bien parce que moi, j'y vais tous les jours.
T'as pris ton maillot ?
J'en ai deux.
Peut-être que ça les sort un peu de leur quotidien. Et puis moi aussi, pour me tenir compagnie pendant les vacances.
La plupart du temps, ils sont partants pour tout. Et puis, ils me racontent leur histoire à eux. Ça fait comme une petite famille, découverte de l'autre. Dans cette société qui prône l'individualisme, ben nous, on partage.
Voilà le partage de Marseille. Un reportage signé Nathalie Chevance, la correspondante d'Europe 1 dans le Sud-Est.
Il est 12h33 à la suite du journal, François.
Ce sont des mots qui ont résonné très fort ce matin dans l'enceinte du Parlement de Strasbourg. Ceux d'Ursula von der Leyen, la ministre de la Défense allemande, qui joue son avenir potentiel à la tête de la Commission européenne devant les députés qui vont voter dans la soirée. Je vous propose tout de suite d'écouter ses tout premiers mots in Französisch, s'il vous plaît, devant les députés.
Il y a exactement 40 ans, la première présidente du Parlement européen, Simone Veil, est élue et présente sa vision d'une Europe plus unie et plus juste. C'est grâce à elle et à toutes les autres icônes européennes que je vous présente aujourd'hui ma vision de l'Europe. Et 40 ans plus tard, c'est avec une grande fierté que je puisse dire « c'est finalement une femme » qui est la candidate à la présidence de la Commission européenne.
Bonjour Isabelle Horry.
Bonjour François.
Vous êtes pour Europe 1 à Strasbourg, hésitante, apparaissant peu convaincante lorsqu'elle s'est exprimée la semaine dernière devant les groupes parlementaires. Il semble bel et bien, Isabelle, ce matin, qu'Ursula von der Leyen a su enfiler le costume.
Oui, son discours avait du souffle, un souffle pro-européen. Elle a démontré ses talents d'oratrice en français, en anglais, en allemand. Ensuite, elle a déroulé des propositions susceptibles de recueillir un large soutien. Pour lutter contre le réchauffement, elle promet un Green Deal, un pacte vert, très vite. Elle veut une taxe carbone aux frontières. Elle insiste aussi sur l'égalité homme-femme. Et elle veut une assurance européenne contre le chômage qui viendrait s'ajouter aux assurances nationales dans les moments de crise. Ursula von der Leyen a aussi su donner une touche humaine à son discours en racontant plusieurs épisodes de sa vie personnelle, comme par exemple quand elle a hébergé un réfugié syrien chez elle. Ce matin, cette femme de droite tendait clairement la main à la gauche et aux écologistes. Et pourtant, elle n'a pas convaincu le président du groupe vert, Philippe Lamberts.
C'est en tout cas une oratrice, et donc elle nous endormira moins que Jean-Claude Juncker. La question, c'est dans quelle mesure les grandes ambitions sont suivies d'actes. C'est une politicienne nationale qui n'a pas d'ancrage européen, et donc la crainte qui est la nôtre, et je pense qu'elle est très fondée, c'est qu'elle soit la marionnette des États membres.
Les Verts vont donc voter contre l'Allemande de 60 ans, la droite dure aussi, le RN et ses alliés l'ont annoncé ce matin. Pour être élue ce soir, elle devra donc faire le plein des voix de sa famille politique, du centre et des sociaux-démocrates. Après son discours, ses chances ont nettement remonté.
Un vote qu'on suivra bien sûr ce soir dans votre grand journal du soir entre 18h et 20h. C'est une des lois que l'on présente comme emblématique du second acte du quinquennat Macron, la fameuse loi climat-énergie que François de Rugy vient défendre devant les sénateurs cet après-midi. Bonjour Aurélie Berbomont.
Bonjour François.
Le problème c'est qu'avec les dernières différentes révélations sur son train de vie, on ne va pas seulement parler climat et énergie visiblement.
C'est vrai que tout le monde risque d'avoir en tête les homards, grands crus et autres dressings au moment où François de Rugy, affaibli, fera son retour devant les parlementaires. Avant d'aller au Sénat, il sera d'ailleurs devant les députés pour les questions au gouvernement. Un conseiller ministériel redoute qu'il se fasse massacrer et je peux vous dire que les marcheurs n'ont pas forcément tous très envie de lui offrir une standing ovation pour le soutenir. Alors, François de Rugy sera-t-il attaqué ? La météo de l'hémicycle est une discipline complexe, avoue-t-on au Modem. Pas sûr que les coups viennent de la droite. Le groupe LR n'a pas prévu d'interroger le ministre sur ce sujet. Les socialistes veulent se concentrer sur le CETA. Mystère à ce stade sur les intentions des insoumis. Mais les communistes veulent se lancer sur la République abîmée. Après cette séance de questions incertaine, direction le Sénat pour François de Rugy, avec l'examen de la loi climat-énergie qui décrète l'urgence climatique. Des sénateurs nous assurent qu'attaquer de front un ministre n'est pas le genre de la maison, mais un élu glisse. Le sénateur est taquin. Il y aura peut-être un mot désagréable ici ou là pendant le débat.
Eh bien, on va suivre les taquineries cet après-midi. Aurélie Herbemont du service politique d'Europe. Alors qu'on s'interroge ce matin encore sur les causes du dramatique accident survenu hier matin sur un passage à niveau à Avenay-Val-d'Or dans la Marne, ce TER venant percuter à 118 km/h une voiture bloquée sur les voies conduite par une assistante maternelle de 37 ans, tuant sur le coup la conductrice et les trois enfants qu'elle transportait. Alors qu'on s'interroge encore sur ces causes, l'émotion est grande, la commune est sous le choc ce matin. On retrouve tout de suite l'envoyé spécial d'Europe 1, Claudia Bertram.
Oui François, et forcément beaucoup de personnes se connaissent dans cette petite commune, parfois seulement de vue en allant chercher les enfants à l'école par exemple. La douleur est immense ici, certains se regroupent par deux ou trois, mais c'est encore très dur pour les habitants de parler, de s'exprimer. Un voisin m'a confié son émotion.
Ça fait un choc, on se dit c'est pas possible quoi. On peut pas pire comme malheur, c'est effroyable pour les parents, pour tout le monde.
Une commune en état de choc, le maire Philippe Mossire reçoit beaucoup d'appels depuis hier soir.
Hier soir nous avions déjà des personnes qui nous demandaient ce que nous allions faire pour rendre hommage aux décédés de cet accident tragique. Il faut faire quelque chose, ça oui. La commune a besoin d'exprimer son traumatisme, son regret face à ce qui s'est passé. Quand vous avez des enfants en bas âge qui meurent, le traumatisme est encore plus profond.
La mairie a déjà décidé de faire du square près de la gare un jardin du souvenir où les habitants pourront venir se recueillir et déposer des fleurs. Il devrait être inauguré dans les prochains jours.
Claudia Bertram, envoyée spéciale d'Europe 1 dans la Marne. Règlement de compte à Stain en Seine-Saint-Denis. Deux hommes ont été abattus dans la cité du Clos-Saint-Lazare. Deux individus qui circulaient à moto et qui n'ont pas hésité à tirer plusieurs rafales, notamment sur l'entrée du hall d'un immeuble du quartier connu pour son trafic de stupéfiants. Quatre arrestations en Corse, dont celle de Charles Pierry, l'ancien chef présumé du FLNC, membre aujourd'hui de la direction du parti indépendantiste Corsica Libera. Il s'agirait d'une affaire de droit commun, selon les informations qui proviennent de Corse.
Dans un instant, la suite du journal de la mi-journée avec un chiffre en baisse, celui du nombre de victimes du sida. Cependant, le virus continue de tuer. 770 000 personnes sont décédées en 2018. A tout de suite avec François Claus sur Europe 1. Il est midi 41 sur Europe 1, la suite du journal avec François Claus.
C'est un chiffre en ligne qu'on a peut-être tendance à oublier chez nous à l'heure des trithérapies, mais le sida dans le monde continue à faire des ravages, même si on est très loin de l'hécatombe des années 2000. L'ONU vient de publier son rapport annuel. Bonjour Pauline Jacquot.
Bonjour François.
770 000 morts dans le monde en 2018. On retiendra malgré tout, au-delà de ce chiffre toujours aussi dramatique, c'est qu'on est en très forte baisse.
Oui, c'est un tiers de morts en moins qu'en 2010, deux fois moins qu'au début des années 2000. On meurt moins du sida parce que les traitements sont plus accessibles, surtout en Afrique du Sud et en Afrique de l'Est. Des pays comme le Kenya, la Somalie, l'Éthiopie, c'est là, dans ces deux régions, que vit plus de la moitié des malades du sida. Aujourd'hui, dans le monde entier, un peu plus de 3 séropositifs sur 5 suivent un traitement. Ça n'était jamais arrivé, ça veut dire concrètement que 3 malades sur 5 ne peuvent plus transmettre le virus.
Et puis au-delà des chiffres, Pauline, il y a ces zones, ces foyers endémiques de la maladie, Europe de l'Est et Asie.
Exactement, et là il y a 30% d'infections en plus dans ces zones et un nombre de morts qui augmente d'environ 5%. Mais il y a aussi ce chiffre, ce milliard de dollars qui manque sur le bilan de cette année, 19 milliards d'investissements contre 20 l'an dernier. Il en faut 7 de plus. Pour tenir les engagements l'an prochain, l'ONU veut que 9 porteurs du VIH sur 10 soient au courant de sa situation et que 9 malades sur 10 soient sous traitement.
Les précisions de Pauline Jacquot après la publication ce matin du rapport de l'ONU. On connaissait les particules fines, voilà qu'on découvre les particules ultra fines et peut-être encore plus toxiques pour l'air que nous respirons. C'est ce qu'on doit retenir, notamment de ce rapport volumineux publié ce matin par l'ANSES, l'Agence Nationale de la Sécurité Sanitaire, rapport qui synthétise 160 études réalisées depuis 2010. Bonjour Laure d'Autriche.
Bonjour.
Alors on sait que la pollution de l'air est directement responsable de 48 000 décès prématurés en France, essentiellement dû aux émissions des moteurs des voitures et des usines. Ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est l'impact de ce qu'on appelle ce carbone organique ou carbone noir. Alors.
Oui, c'est ça. Ce sont des particules de taille et de composition différentes, mais qui font partie de l'air pollué que nous respirons. Et 3 sortes de particules sont particulièrement toxiques, dit l'ANSES. Les particules ultrafines, le carbone organique, le carbone noir, elles pénètrent en fait dans l'appareil respiratoire jusqu'aux alvéoles et rejoignent la circulation sanguine. Alors, lorsque l'on est très exposé à ces polluants, les cancers du poumon, les maladies cardiovasculaires sont plus fréquentes, explique ce rapport. Il y a aussi des conséquences sur le cerveau des enfants et même avant la naissance sur les fœtus, explique Guillaume Boulanger. Il fait partie de l'unité d'évaluation des risques liés à l'air à l'ANSES.
Plus cette concentration est importante, et plus finalement, on va avoir des défauts d'apprentissage. C'est-à-dire que on propose des tests aux enfants sur une capacité de mémorisation. Et finalement, ces capacités sont réduites. Et en suivant des mamans qui sont enceintes, on va avoir des problématiques au niveau de la reproduction. Et notamment, on a des bébés qui naissent soit prématurément, soit avec des faibles poids de naissance.
Alors aujourd'hui, on mesure régulièrement le taux de particules fines dans l'air. Hein, mais l'Agence de la Sécurité Sanitaire recommande que les experts surveillent plus précisément ces composés chimiques et qu'on travaille davantage sur la pollution émise aussi par l'agriculture, le transport maritime, le secteur aéroportuaire, sur lesquels on a aujourd'hui très peu de données.
Laure d'Autriche, spécialiste environnement sur Europe 1. 13 magasins Tati vont fermer en France. Il ne restera en fait qu'une seule enseigne sur tout le territoire qui portera le célèbre griffe Vichy rose et blanc, celle de Barbès, évidemment, le bastion historique de la marque. Les autres enseignes vont passer sous enseigne Jiffy. Il y aura 189 suppressions de postes. C'est une hausse de prix qui tombe mal en ce temps béni des barbecues estivaux où merguez, chipolata et autres saucisses font notre bonheur au moment de l'apéro. Bonjour Anne-Laure Jubet.
Bonjour.
Une hausse des cours que l'on estime quand même à près de 25% depuis 6 mois. Et tout ça, est-ce vrai, Anne-Laure, à cause des Chinois?
Et oui, car le porc chinois est décimé par la peste porcine africaine. Au moins 20% du cheptel est mort de cette maladie. Ça, ce sont les chiffres officiels. Mais des éleveurs chinois parlent même de 40 à 50% de truies décimées. Or, les Chinois sont les premiers consommateurs de porc au monde. 30 kilos par an et par habitant. Pour pallier la baisse de la production locale, ils se tournent donc vers l'export et vers la France, entre autres pays européens. Des progressions à 2 chiffres depuis quelques mois, d'où l'explosion des cours du porc sur le marché breton de Plérin qui sert de référence. Une situation qualifiée d'exceptionnel par les professionnels du secteur. Du coup, les industriels de la charcuterie ont demandé à la grande distribution de renégocier les accords signés avant même cette flambée des prix. Ça a été lent, mais les distributeurs ont fini par accepter. Feu vert dans 80% des cas, mais ce sont bien souvent des hausses partielles. Ça a quand même sauvé un certain nombre d'entreprises de la faillite, selon la Fédération des industriels du secteur. Le consommateur, lui, et perdants. Et ça risque de continuer puisque la peste porcine africaine n'a pas fini de faire des dégâts en Chine.
Merci Alain Jumet, Service économique d'Europe
1. Il est midi 46 sur Europe 1.
Allez, c'est le temps de notre balade estivale. Nous allons aller dans une forêt qui fleure bon les légendes bretonnes, où plane aussi peut-être l'ombre un peu de Panoramix, la forêt de Brocéliande, avec Jean-Gabriel Bourgeois.
Oui, on est parti pour plus de 3 heures de promenade entre les étangs et les collines. Un groupe d'une trentaine de personnes et Katia Bessette, notre conteuse, nous donne la règle pour passer dans ce monde imaginaire. Elle s'appuie sur Antoine de Saint-Exupéry.
Tout le monde se rappelle de ce que le renard dit au petit prince. Il lui explique que les vraies choses, les choses importantes, ne se voient qu'avec le cœur. Si on ouvre grand les yeux du cœur, alors nous aurons accès au monde invisible. Et c'est bien là la quête que nous venons vivre à Brocéliande, accéder au monde invisible.
Les enfants espèrent apercevoir Merlin l'enchanteur au détour d'un arbre ou la fée Viviane près d'un ruisseau. On crapahute dans les collines et on navigue entre les contes arthuriens, les contes populaires. Le golfe du Morbihan se serait ainsi formé grâce aux larmes des korrigans, des petits lutins espiègles. Petits et grands sont conquis.
Moi, ça m'a fait revivre l'histoire de ma Bretagne, l'histoire aussi de ma jeunesse, parce que c'est des histoires si on veut, mais enfin, que ce soit Lancelot ou Viviane ou Morgane, hein. C'est l'histoire de jalousie, d'amour, et c'est l'histoire des hommes. Hein.
On s'assoit autour d'un gros rocher et tout le monde se tait pour écouter Katia parler de Morgane, la sœur magicienne du roi Arthur, et de son promis Guyomard qui l'a trahi avec une autre femme.
Elle a agité ses mains dans les airs, elle a créé des volutes et les a transformés tous les deux. On dit que désormais les deux amants reposent là, transformés en pierre pour l'éternité en haut de ce val sans retour.
Voilà, et d'ailleurs cette légende où une femme prend le pouvoir sur les hommes, elle est considérée comme l'une des premières histoires féministes de la littérature française.
Et oui, quand les légendes, Jean-Gabriel, rejoignent l'actualité.
Vous restez avec nous sur Europe 1 dans le journal La Suite du feuilleton Neymar au PSG et le Tour de France cycliste, séjour de relâche ce mardi, avant de retrouver les coureurs sur la route des Pyrénées. François Claus, dans un instant, vous serez avec le consultant d'Europe 1, Thomas Vecler. Il est midi 50, le journal de la mi-journée. François Claus sur Europe 1.
Et c'est l'heure du Tour de France.
Europe 1, en direct du Tour de France.
Journée de repos ou de relâche avant d'attaquer ces Pyrénées où vous avez en partie forgé votre légende, Thomas Vecler. Bonjour Thomas.
Bonjour tout le monde.
Alors, question simple, Thomas, ce midi, comment Thibaut Pinot doit-il et surtout peut-il réagir alors qu'on aborde les cols hors catégorie et le contre-la-montre de Pau face à l'armada d'Ineos, celle de Geraint Thomas et du Colombien Bernal, qui sont, Thomas, deuxième et troisième au général ce matin.
Quel paradoxe hein, par rapport à hier. Hier matin, Thibaut Pinot était le mieux classé de tous les prétendants à la victoire finale. Et aujourd'hui, hier, il s'est fait piéger au même titre que d'autres coureurs. Il n'y a pas vraiment eu d'erreur de sa part, c'est la loi du sport. En revanche, ça tombe pas forcément bien cette journée de repos. Et j'espère qu'il ne va pas trop cogiter. Je suis convaincu qu'au niveau de son staff, on va faire ce qu'il faut. On a fait ce qu'il faut d'ailleurs dès hier peut-être pour justement tourner la page. Et de toute façon, il n'y a pas le choix. Ça ne sert à rien de ressasser, de regarder en arrière. Il faut regarder devant et sa condition physique est exceptionnelle. Elle n'est certainement pas à remettre en cause. Il y a des belles choses à faire. Il va revenir dans le jeu. Mais il ne faut pas se le cacher, c'était une mauvaise opération hier.
Ce que vous nous dites là aujourd'hui, Thomas, c'est que ça va se jouer dans la tête, au-delà des jambes, notamment dans les Pyrénées qui arrivent.
Ah, ce qui est sûr, c'est que les jambes, il les a, ça c'est clair. La tête, je pense qu'il l'a aussi hier. Bien sûr, il était déçu, c'est normal. Il manquerait plus que ça qu'il ne soit pas déçu après en se prenant 1 minute 40. Mais il ne va pas baisser les bras et ça fait des mois, une année qu'il pense à ça, ça fait des mois qu'il bosse pour ça. Il ne va pas baisser les bras. Regardez Romain Bardet, les 8 premiers jours, il a perdu près de 2 minutes. On a tous dit, plus ou moins modérément, que oui, oh là là, c'est pas bien pour Romain. Eh bien hier, Romain Bardet, il était avec 4 équipiers dans la première partie du peloton et il a refait une partie de son retard sur 4 ou 5 favoris. La vérité du jour n'est pas celle du lendemain et surtout, le Tour de France est encore long. Mais il faut être franc et objectif. Les Ineos, anciennement Sky, avec Bernal et Geraint Thomas, sont dans les meilleures dispositions, mais si le vélo c'était une science exacte, on s'ennuierait.
Et on est à l'abri de rien. Et on écouterait pas Thomas Vecler tous les midis sur Europe 1, absolument.
C'est gentil.
Et c'est ce Tour de France qui nous passionne justement et qui fait le sel de ce sport et de cette épreuve. Bon repos Thomas, et on vous retrouve évidemment pour le Club Tour ce soir à 19h15.
Très bien.
Alors, il y a aussi un autre feuilleton qui nous passionne, celui de Neymar. Bonjour Simon Rubin.
Bonjour.
Une certitude, Neymar n'est pas du premier déplacement parisien de la saison à Dresde, en Allemagne, ce soir. Mais voilà une équation qui soudain se profile. Barcelone avait massivement investi sur deux joueurs l'année dernière, le Brésilien Coutinho, le Français Dembélé, qui n'ont pas donné grande satisfaction. Le PSG, lui, avait investi sur un joueur, Neymar, qui lui n'a pas donné satisfaction. Alors Simon, si on échangeait ?
Oui, c'est l'idée du Barça évoquée par le journal L'Équipe, le club espagnol qui proposerait non pas de l'argent pour acheter Neymar, mais un échange, hein, Neymar, contre deux joueurs barcelonais, deux joueurs dont les valeurs cumulées dépasseraient, avoisineraient les 220 millions d'euros. On pense donc effectivement à Coutinho et Dembélé. Alors le premier, un Brésilien dont l'agent cherche une porte de sortie, joueur talentueux mais qui ne s'est pas vraiment adapté au Barça. Et puis le second, champion du monde français, dont le manque de rigueur l'a souvent empêché d'être régulier. Alors pas sûr que l'offre séduise Paris, hein. Le PSG, lui, a surtout besoin de liquidité, avec en toile de fond le fair play financier, avec aussi l'idée qu'il ne faut pas que l'avenue de Neymar se solde deux ans après par un échec économique, hein. Le laisser partir sans empocher un euro, ce serait un camouflet. Dans ce dossier, hein, ce que l'on sait également, c'est que le PSG n'a pas l'intention de lâcher facilement Neymar. Si la direction sportive a acté la volonté de partir du Brésilien, elle a surtout pour ambition de reprendre la main sur le dossier. Si Neymar doit partir, ce sera aux conditions dictées par le club. En l'occurrence, le PSG jusqu'à présent a gardé la même ligne. Il acceptera une offre si elle est financièrement attractive, comprenez au moins 200 millions d'euros.
Merci Simon Rebin. Ce n'est pas une biographie de Neymar. L'Enchanteur, c'est le livre qu'on va vous conseiller aujourd'hui, signé Stéphane Place avec la librairie Mola à Bordeaux.
Une bande d'adolescents dans une grande ville française qui ressemble furieusement à Bordeaux d'ailleurs. Et dans ce groupe de copains très soudés, un drame qui est en train de se jouer puisque l'un d'eux est malade, très malade. Mais Stanislas, le leader de ces jeunes qui a le don de régler les problèmes de cœur, de notes pour ses camarades et que l'on a fini par surnommer pour ses talents l'enchanteur, va recevoir cette fois un ordre de mission tout à fait particulier de son ami mourant. Roman fantastique contemporain qu'a lu avec beaucoup de plaisir Anaïs Urcé, libraire chez Mola.
Il y a plusieurs niveaux de lecture, c'est-à-dire que c'est un roman qui est très complet, très dense, c'est un roman philosophique, c'est un roman d'aventure, c'est un roman policier aussi, fantastique. En fait, l'histoire, c'est juste l'histoire d'une bande de copains. Le chef de bande est Stan. Stan, c'est un peu le magouilleur de première. Dès qu'on a un problème, c'est lui qu'on va voir, il trouve une solution. Stan, il a un copain qui s'appelle Dan et qui malheureusement est atteint d'un cancer incurable. Ce jeune homme, on sait qu'il va mourir avant la fin de l'histoire. Et il est fan de comédie musicale. Et il va lancer un dernier défi en fait à Stan en lui demandant de lui concocter une espèce de mort grandiose, inoubliable, pour gagner un peu d'immortalité. Sauf que ça va pas se passer comme prévu puisqu'il y a une espèce de menace un peu indicible qui se répand dans la ville. Les meurtres s'accumulent, vraiment flippant en fait. Hein. Et on ne sait pas si c'est un serial killer ou si c'est une menace un peu plus mystérieuse. Un peu plus mystique, un peu plus fantastique.
Transformer la mort en un spectacle exceptionnel, 9 mois pour réaliser ce que Stan et ses potes appellent eux-mêmes le miracle, intrigue sortie tout droit de l'imagination de l'auteur Stéphane Carrière.
Au même moment, la ville va de plus en plus mal. Ça se passe aujourd'hui et maintenant, donc c'est pour toutes les raisons qu'on connaît. La peur, le terrorisme, les tensions, le communautarisme, le mécontentement général populaire. Il y a des crimes qui se produisent, il y a des événements de plus en plus étranges. C'est comme si la ville tombait malade. Ça devient proprement terrifiant, à tel point que certains commencent à parler de monstres.
Alors c'est avant tout un roman fantastique, dense, rythmé, et qui devrait tenir en haleine ceux que l'on appelle les jeunes adultes qui lâcheront, espérons-le en tout cas, leur smartphone pour dévorer l'enchanteur.
Merci pour ce conseil, Stéphane Place.
Vous restez avec nous à suivre le rappel de l'actualité sur Europe 1 avec vous, François Claus, la météo d'Elena Morna. Et puis à partir de 13h, le meilleur de la France bouge avec Raphaël Duchemin. Bonjour.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver sur Europe 1 pendant tout l'été. C'est la France qui bouge. Et aujourd'hui, les attractions touristiques innovantes et françaises sont à l'honneur. A tout de suite.
Alors, Elena Morna, oui, il faisait un peu frais ce matin, mais là, ça va être chaud.
Oui, alors c'est vrai qu'on a démarré la journée à 4 degrés à Charleville-Mézières. Eh bien, il fera 20 plus cet après-midi, des températures qui remontent chaque jour un peu plus. On attend d'ailleurs un nouvel épisode de forte chaleur pour le week-end et la semaine prochaine. Sous le ciel à peine voilé de cet après-midi, on aura donc 20 degrés à Cherbourg, 24 à Caen-Lille, 25 à Brest, 27 à La Rochelle, Paris et Strasbourg, 29 à Angers, Bourges et Toulon, 30 pour Bordeaux-Marseille, 31 pour Lyon, jusqu'à 34 pour Nîmes.
Merci Elena Morna.